Bien bonsoir et bienvenue au Centre Pompidou. Merci d'être venus extrêmement nombreux pour cette rencontre du cycle La Création à l'œuvre. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie de Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad est à la fois auteur de près d'une quinzaine de pièces de théâtre, metteur en scène, acteur. Il s'est imposé depuis la fin des années 90 comme l'une des figures les plus marquantes du théâtre contemporain. C'est sa pièce Littoral qu'il a révélée en France au Festival d'Avignon en 1999. On suivit ses pièces Incendie, Forêt et Ciel, qui réunies avec Littoral sous le titre Le sang des promesses ont été présentées au Festival d'Avignon en 2009. Les trois premières pièces de ce quatuor ont été d'ailleurs jouées à la suite durant toute une nuit dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Une expérience qui a soulevé l'enthousiasme du public, un public fervent et bouleversé par le théâtre de Wajdi Mouawad, qui mêle l'intime et l'universel dans des récits épiques d'une grande puissance narrative, racontant le monde, l'histoire, à travers des destins singuliers, en faisant coexister plusieurs temporalités sur la scène. Pour autant, Wajdi Mouawad n'est pas qu'un auteur et un metteur en scène de sagas infinies. Il affronte par exemple Seul le public dans sa pièce Seul, avec un S, créée en 2008 et qu'on a pu voir revoir cette année au Théâtre National de Chaillot. Il a signé également deux romans, dont le dernier intitulé Anima est paru en 2012 aux éditions Actes Sud, comme presque toute son œuvre. Wajdi Mouawad dit raconter des histoires pour comprendre sa propre histoire et se retrouver lui-même. Son œuvre puise dans son expérience personnelle, placée dès l'enfance sous le signe de la douleur, de la guerre, de l'exil. D'origine libanaise, Wajdi Mouawad a 8 ans lorsque sa famille doit fuir un pays déchiré et émigrer en France. 5 ans plus tard, il connaîtra à nouveau déracinement en étant contraint de quitter la France pour le Canada. Les thèmes qu'il explore sont ceux de la violence du monde, de l'identité, de la filiation, de la transmission. Il affirme que s'il écrit, je le cite, « c'est pour tordre le cou au destin et tenter de tirer du néant une force poétique qui ne confirme pas ma destruction ». Je vais lui donner la parole pour en savoir plus sur ce rôle consolateur, réparateur qu'il assigne à la création. C'est Tiphaine Kersanti qui va conduire cet entretien. Tiphaine Kersanti est maître de conférence en études théâtrales à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Alors merci Francine Figuière. Wajdi, le titre de ce cycle, La création à l'œuvre, nous invite, je trouve, à commencer par peut-être le plus difficile. Donc cette première question va t'inviter à essayer de décrire quelque chose qui relève peut-être un peu du mystère. Ce qui déclenche chez toi ce processus qui est ensuite peut-être très long, qui amènera à la création d'une œuvre. Il me semble, pour t'avoir lu, que ce qui est à l'origine, ce qui déclenche l'envie, peut-être même le besoin d'écrire, ça n'est pas une idée, ça n'est pas un projet intellectuel, mais c'est une sensation que tu ressens parfois de façon très fulgurante ou ponctuelle. Tu décris des expériences concrètes. Par exemple, ce moment où tu t'es retrouvée face à la tombe d'un certain Lucien Blondel dans un cimetière de Dordogne, qui était né avant 1870, mort après 1945, et tu as réalisé à ce moment-là qu'on pouvait avoir traversé les trois guerres franco-allemandes. Et l'émotion, la sensation provoquée par cette expérience a été peut-être le point d'origine de Forêt qui ensuite s'est développé sur un temps très long. Alors, est-ce que tu peux essayer de nous décrire cette émotion? Qu'est-ce que c'est que cette sensation si singulière qui se distingue, j'imagine, que de d'autres émotions ou sensations que tu ressens aussi dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu reconnais une sensation qui est porteuse d'une œuvre?
Alors, ce n'est jamais en tout cas, ce n'est jamais né d'un effort volontaire de la raison. Je vais peut-être, parce que ça sera plus simple, commencer par dire ce que ce n'est pas. Donc ce n'est pas un effort né d'un effort volontaire de la raison. C'est-à-dire, ce n'est pas... Je me rends compte que lorsque je termine un spectacle, je ne me mets pas en chasse. Je n'ai pas hâte d'avoir une autre idée pour un prochain spectacle. Dans le sens où je pense que je ne me considère absolument pas comme quelqu'un dont la vie consiste à faire des spectacles de théâtre. Et donc, une fois qu'il en a terminé un, il se dit, bon, alors, cherchons le suivant, qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est pas ça. Ça, je sais que c'est pas ça. C'est pas non plus comment dire, ce n'est pas en fouillant dans les journaux, en cherchant dans les faits divers une situation, ce n'est pas en lisant des livres de psychanalyse où les gens témoignent de choses qu'ils ont vécues qui sont parfois très très fortes, où je me dis, ah tiens, ça pourrait faire une très bonne histoire, voici une très bonne situation. Ce n'est pas ça non plus. Donc au fond, ce n'est jamais quelque chose qui naît de l'extérieur. Ce n'est jamais une situation qui est donnée de l'extérieur vers l'intérieur et où j'y vois une situation potentiellement intéressante pour en faire un spectacle de théâtre. Je procède pas comme ça non plus. Il y a, je crois, l'idée d'un terrain vague. On peut dire ça. Il y a l'idée d'un terrain vague. Il y a l'idée d'une... En fait, la question que tu me poses, c'est comme si tu demandais à une forêt comment ça naît une clairière. Comment ça naît une clairière ? Vous voyez une forêt touffue où il y a plein d'arbres, vous marchez dans les arbres, vous avez perdu le sentier, vous ne savez plus où vous êtes, etc. Et tout à coup, vous entendez un chant d'oiseaux qui vous guide un peu, vous avez un peu la lumière du soleil, et puis en naviguant un peu entre les troncs des arbres, en vous faisant vraiment griffé par les broussailles, par les buissons, parce qu'il n'y a plus de chemin, vous êtes obligé de passer à travers des taillis, tout à coup vous arrivez à une clairière. Et là vous vous arrêtez, vous vous installez, vous vous asseyez, parce que c'est bon une clairière. Ça vous permet de souffler, de prendre un peu d'air. Vous n'êtes plus entouré de tant de choses, vous avez de l'espace. Au fond, comment on pourrait poser la question, mais comment est née cette clairière ? Il n'y a pas eu d'hommes qui sont venus abattre des arbres. Comment est née la clairière ? Donc au fond, comment naît la relation à ce qui deviendra finalement après des années un spectacle ? Comment ça naît, je crois ? Alors là, j'ai essayé de par toutes les moyens de trouver des images. Une des images que j'ai le plus souvent utilisées, c'est en effet celle de la sensation, celle de me dire, il se trouve que tout à coup, comme ça, par exemple, je vais donner un exemple, j'ai pas d'autres moyens. En ce moment, je suis très très occupé par cette chose-là, qui consiste, lorsque on est dans le métro ou bien dans peu importe où on est, où il y a du monde, c'est de regarder les gens qui passent et de prendre quelqu'un qui passe et de regarder comment il est habillé. Et je regarde par exemple comment il est habillé, je pourrais prendre n'importe qui d'entre nous ici et regarder comment il est habillé. Et là, regarder par exemple la chemise. Et là me dire, tiens, cette chemise que cette personne a sur le dos, par exemple, pouvait faire ça sur moi en ce moment. Regardez comment je suis habillé, regardez mon foulard, ma chemise, ça, bon. Il est évident que vous pouvez m'imaginer dans la boutique en train de choisir le foulard. Hein ? Et puis, vous pouvez m'imaginer en train d'hésiter entre ce foulard-là et puis un autre, parce que dans les boutiques, il y a toujours plusieurs foulards de différentes couleurs. Et là, vous me voyez, il a bien fallu que je décide que c'est ce foulard-là que je vais acheter. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? C'est parce que j'ai considéré que c'était celui qui m'allait le mieux. Que c'était celui-là qui faisait en sorte que j'étais le... Comment dire ? Ouais, qui était le plus en accord avec ce que je suis. C'est ce que j'ai pensé de moi-même. Et j'ai fait la même chose avec tout ce qui m'habille, la chemise, le t-shirt, le pantalon. Le pantalon, je suis rentré dans une cabine d'essayage, je l'ai essayé, il était trop... Je me suis regardé, il y a eu ce moment où je me suis observé dans le miroir, où le type dans la boutique a essayé de m'encourager d'une manière ou d'une autre pour me dire des choses. Oui, non, oui, il vous fait bien, etc. Bon. Et ça, si on fait ça sur les gens dans le métro, par exemple, à l'heure de pointe, le moment qui est quand même un moment très compliqué, à ce moment-là, ce dont je me rends compte en ce moment, c'est que cet exercice, je n'arrive pas à l'épuiser, parce qu'à chaque fois, il fait naître en moi une émotion, mais absolument, il m'amène jusqu'aux larmes. Parce que je vois quelqu'un qui a fait de son mieux, et cette personne a pensé que c'est comme ça qu'il est le mieux. C'est ce sac qu'il a choisi. C'est ce chapeau. C'est cette manière de se coiffer. Et j'imagine, je ne vois pas juste le présent, j'imagine aussi le chemin qui l'a amené à cette décision. Donc je l'imagine chez le coiffeur, en train de se regarder, ce moment où on est un peu fragile, parce que le coiffeur nous coupe les cheveux, et puis bon, à la fin, il nous monte dans le miroir, on dit « ça va, c'est bien », on sort, on est content. Tous ces moments de petite humanité, en ce moment, me hantent, je dirais. Je ne sais absolument pas en quoi elles sont porteurs d'une histoire ou pas. Mais je sais qu'elles sont porteuses d'une sensation qui ne me lâche pas, qui ne me lâche absolument pas. Et cette sensation qui naît toujours de ça, des chaussures, des gens, de l'autre en tout cas, pas de moi, de l'autre, et du fait aussi par exemple de me dire, par exemple dans le métro, entre telle station et telle station, lorsqu'il y a 12 stations qui nous séparent de notre destination, d'être assis à côté de quelqu'un et de savoir que cette personne-là ne sait pas qu'en ce moment, la personne qui est assise à côté d'elle est absolument bouleversée parce qu'elle imagine comment elle a acheté sa chemise. Et ce secret qui me renvoie au fond peut-être un peu aux anges des ailes du désir qui sont penchés, au fond cette bonté, cette affection, cette douceur, cette infinie douceur au fond qui témoigne peut-être de quelque chose de très très important pour moi, ne me lasse pas. Voilà, je ne m'en lasse pas. Je ne lis plus de livres dans le métro, par exemple. Parce que ça m'intéresse plus de faire ça que de lire le livre dans le métro. Eh bien, cette chose-là, elle est... Alors, pourquoi je fais ça? D'où c'est venu? Je sais. On peut toujours se demander, oui, mais pourquoi? Mais je ne sais pas. Mais je sais que cette chose-là, elle est à la source de quelque chose qui va peut-être, dans un an, s'agglomérer pour devenir une situation, qui pourrait devenir je ne sais quelle situation. Je ne peux pas encore aujourd'hui dire quelle situation elle deviendra. Mais je sais que la situation qu'elle deviendra sera porteuse de cette émotion, de cette sensation précise que je ressens lorsque je regarde quelqu'un assis dans le métro et que je commence à l'imaginer en train de s'habiller, de se coiffer, de se préparer et de penser que c'est comme ça qu'il est le mieux. C'est pas une réponse, mais...
Mais est-ce que ce rapport de disponibilité à l'expérience quand même que tu décris là, est-ce que tu as le sentiment que c'est le fruit d'un travail? Ou est-ce que c'est quelque chose d'absolument spontané chez toi? C'est-à-dire tu as toujours été comme ça? Tu as toujours ressenti des émotions, parfois singulières, face à des expériences singulières. Ou est-ce que tu travailles à conserver cette disponibilité-là ?
Alors, je sais que ce qui a peut-être précédé ça, est-ce que c'est comme ça? Oui. Est-ce que je crois pas que j'ai toujours été comme ça, ou alors pas consciemment, pas instinctivement, mais je me suis rendu compte que la langue, l'écriture dans un roman, ou bien l'écriture dans une pièce de théâtre, il y a l'écriture, il y a la langue qui porte l'écriture, qui transporte l'écriture. La langue, en tout cas, j'ai la conviction qu'elle est éthique, qu'elle ne peut être que prodigieusement éthique, la langue. L'écriture, peut-être pas l'écriture, on peut lui faire dire ce qu'on veut, on peut faire à l'écriture des choses absolument abominables. On peut lui faire dire des choses absolument abominables. Mais la langue, la notion de langue, la langue telle qu'on parle d'une langue comme on en parle chez Julien Gracq, ou bien, enfin, là je prends des exemples absolument majeurs, elle ne peut naître que d'une forme de rapport éthique au monde. Ce rapport éthique, il est quoi ? Il est de se poser la question, la notion de bonté, la notion d'altérité. Alors ça renvoie à quelque chose de très important et qui est extrêmement violent chez moi. Alors, vous allez voir comment ça rebondit. J'ai grandi dans un contexte familial extrêmement exclusif, c'est-à-dire qui avait tendance... pas tendance, qui excluait l'autre continuellement. Ce contexte familial, qui est le contexte d'une famille libanaise de confession chrétienne maronite née au Liban, c'est un détail important parce que la guerre civile qui va sévir est une guerre qui va jeter les confessions religieuses, il y en a 18 au Liban, les unes contre les autres. J'ai grandi dans un rapport confessionnel exclusif, c'est-à-dire que j'ai grandi en entendant mes parents dire que les autres étaient les ennemis. Concrètement, ma mère me disait « ne va pas jouer avec ces gens-là, ce sont des Arabes, ne va pas jouer avec les Arabes ». Je disais « mais qui sommes-nous ? On est au Liban, hein, on parle arabe et tout ». Elle dit « nous ne sommes pas des Arabes ». Je dis « mais que sommes-nous ? » Eh bien, nous sommes des chrétiens. Je dis, mais il existe des Arabes chrétiens. Je dis, oui, mais nous ne sommes pas des Arabes. Mais alors, qui sommes-nous ? Nous sommes des Phéniciens. Bon, donc, on se définissait à la fois par quelque chose, par la négative, nous ne sommes pas des Arabes, ou on se définissait par quelque chose qui n'existait plus, des Phéniciens. Et cette définition renvoyait continuellement une forme de détestation de l'autre. C'est-à-dire, les Druzes nous ont massacrés en 1892, on s'en souvient encore, ils nous ont égorgés, ils ont égorgé nos enfants, ces salauds de Druzes. Les chiites, alors ça c'est la pire engeance qui peut exister. Les Palestiniens, c'est à cause d'eux qu'il y a eu la guerre. Notre grand malheur, notre plus grand malheur vient des Palestiniens. Les Israéliens, alors là c'est encore pire, les Juifs n'en parlons jamais. Au fond, ce qui était bien, c'était le chrétien maronite. Lui, il était très très bien. Et j'ai grandi avec ça, et un enfant entend très très bien, il accepte au fond ce qu'on lui dit. Un enfant, on lui dit ça c'est pas bien, ne fais pas ça, ça c'est pas bien, il l'entend, et il l'applique. De sorte que, enfant, j'ai dansé à la mort du chef Druze quand il est mort. On est sortis, nous les enfants, dans la rue, on s'est mis à danser tellement on était contents, parce qu'il est mort l'ennemi. Donc dans cette éducation de détestation, quelque chose s'est forgé fondamentalement et profondément et à jamais en moi, je dirais. Il se trouve que la chance que l'exil a apportée, c'est que j'ai rencontré des cultures différentes, j'ai été obligé de m'intégrer aux autres, et surtout j'ai rencontré la littérature, j'ai lu Kafka, pour commencer. J'ai lu Kafka sans savoir que je devais lire Kafka. Je suis tombé dessus par hasard et ça a été une métamorphose majeure. J'entrerai là-dedans peut-être, j'expliquerai pourquoi plus tard. Mais cette rencontre de la littérature m'a donné envie d'écrire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je me suis pas mis à écrire parce que j'ai vécu la guerre ou l'exil. Je me suis mis à écrire parce que j'ai lu. Et ça, c'est vraiment une nuance très importante. C'est comme si je comprenais au fond que... En fait, ça, c'est vraiment très important. C'est l'art qui appelle l'art. On se met à peindre parce qu'on voit un tableau, on se met à faire du théâtre parce qu'on a vu une pièce, on se met pas à faire du théâtre parce qu'on a été battu enfant. Après,
on voit du théâtre, on veut faire du théâtre et on se dit qu'est-ce que j'ai sous la main ? Ah, j'ai été battu. Bon ben, on utilise ça comme un outil parce que c'est le seul outil qu'on nous a donné. Donc la guerre, l'exil, ça a été les outils avec lesquels j'ai fabriqué la littérature quand je l'ai rencontrée. J'ai eu envie d'en faire pareil. Mais il se trouve que qu'est-ce qui s'est passé ? Instinctivement, je me suis mis à donner la parole à ceux qu'on m'a appris à détester. Et je crois que l'expérience instinctive de l'altérité, pour ma part, je l'ai fait à cet endroit-là, sans qu'on me le dise, sans que qui que ce soit me dise de faire ça. Et c'est en ce sens-là qu'elle est fondamentale. Quand on, par exemple, incendie, nous allons aller jouer incendie au Liban. Le public va être essentiellement un public francophile, chrétien, maronite. Je vais avoir à prévenir les acteurs en leur disant ça va pas leur plaire. Parce que Incendie est une pièce, au fond, pour celui qui est capable de lire les lignes, entre les lignes, qui connaît la situation, c'est une pièce éminemment pro-palestinienne. Le grand discours de Saouda sur les camps, c'est le camp de Sabra et Shatila, c'est les massacres de Sabra et Shatila qui ont été commis par moi, par ma communauté. Dans Littoral, c'est un peu la même chose, et même dans Anima, mon personnage principal est né dans un camp, est né à Sabra, c'est un enfant palestinien. Et je me suis rendu compte que ce n'est que dans qu'il fallait toujours, à tous les endroits de ma vie, pas seulement littéraire, mais dans ma vie, à tous les endroits, dans mes amitiés, dans tous les endroits, il fallait absolument tout le temps que je donne la parole à ceux qu'on m'a appris à détester, que je leur donne la parole, et que la parole que je leur donne soit une parole qui bouleverse, soit une parole qui renverse, une parole qui ne soit pas juste esthétique, soit une parole qui crée une catharsis, donc qui crée une communion, qui crée une relation, qui recompose un groupe de gens qu'on m'a appris à détester. Alors, quand je reviens un peu à cette idée de regarder l'autre, comment il est habillé, et d'en être bouleversé, c'est au fond comment être touché profondément par l'autre qu'on ne connaît pas du tout. Et comment faire en sorte que cette émotion devient langage après ? C'est en ce sens-là que je dis que pour moi, c'est une démarche éthique fondamentalement. Je ne dis pas que ça doit être comme ça pour tous les auteurs. Je dis que dans ma vie, la manière avec laquelle la littérature a surgi chez moi et comment elle a ressurgi, ensuite comme auteur, elle a ressurgi dans la parole de l'autre et pas dans la mienne. Et puis ça, c'est vraiment, je me rends compte, ça a été vraiment très, très important. Donc je ne crois pas que j'ai toujours été comme ça. Mais je pense que ce à quoi je dois continuellement faire attention, c'est de ne jamais oublier que fondamentalement, j'ai été dressé pour détester. Et que je dois donc, en ce sens, toujours avoir la main sur ce gros chien. Je ne peux pas le tuer. Le tuer, ce serait tuer quelque chose de trop ancré en moi. Le tuer, ce serait me jeter par le feu, ce serait me pendre, quoi. Mais je dois le dresser, toujours couché. Voilà.
Et cette émotion que tu cherches à produire aussi sur ton public, tu te parles de toucher à partir de cette représentation des autres, etc. Ça passe par quel véhicule ? Parce que tout à l'heure, tu as dit que la sensation qui pouvait être à l'origine d'un spectacle, elle allait se transformer plus tard en histoire, en situation, et donc en histoire. Et en même temps, quand on voit tes spectacles, on est frappé aussi par la place de l'image. Bon, dans Seul, c'est particulièrement net, mais même, je trouve, dans Le Son des Promesses, par exemple, quelle place est-ce que tu accordes aux différents éléments du plateau, donc l'image, mais aussi le son, le corps des acteurs, et l'histoire qui est très centrale chez toi, on l'a compris, en tout cas qu'il était, je ne sais pas si ça évolue, dans cette perspective qui est de toucher. Quelle est la puissance émotionnelle relative que tu donnes à chacun de ces éléments ?
Alors, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs à l'école de théâtre qui m'ont alors appris différentes choses, mais enfin, ils m'ont appris une chose très importante qui a été une chose à laquelle j'ai cru immédiatement. Immédiatement. J'y ai cru au moment où elle a été prononcée, j'ai dit oui, j'adhère. J'adhère et j'applique à l'instant. Pas je vais y réfléchir, ah c'est intéressant. Non, tout de suite, j'ai dit ah, boum. Ça a été, au fond, cette chose-là, c'était deux petites phrases. Une phrase qui a été dite par un de mes profs qui s'appelle Yves Desgagné au Québec, qui a dit au milieu d'une vague de mots qu'il disait pendant une séance de notes, après une répétition où il nous donnait des notes, etc. Et à un moment donné, il a dit cette phrase, mais je crois qu'il ne s'est même pas entendu lui-même tellement il disait des choses. Il a dit, mais c'est quoi un acteur si ce n'est que celui qui avance pour témoigner de qui il est. Alors cette chose-là, de l'acteur qui s'avance pour témoigner de qui il est, a ouvert une brèche très forte chez moi dans ce qu'elle avait de simple. Je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, pourquoi on s'embête, quoi ? Un acteur, il s'avance et il dit qui il est. C'est simple. Maintenant, il s'agit de le faire, mais c'est simple. Mais ça a été pour moi une sorte de révélation très forte. L'autre chose, qui a été encore prononcée par le même professeur, Yves Desgagné, il avait dit, on peut tout faire au théâtre. Tout faire pas, on peut tout dire ou on peut tout faire techniquement. On peut, par rapport au cinéma par exemple, où on peut avoir des décors, des travelling, on peut aller d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre, d'un temps à un autre, et puis on peut faire des batailles navales avec des bateaux, on peut faire des batailles avec, on peut faire des monstres épouvantables. Bon. Par rapport à cette chose qui était le cinéma, ou même la littérature, où on n'a qu'à dire, je sais pas, vous voyez, au théâtre, c'est compliqué quand vous ouvrez une pièce de théâtre et la première didascalie, c'est, je sais pas, le débarquement de Normandie. Bon. Tu fais bon, ok, alors on fait ça comment ? Là, vous êtes quatre sur un plateau, je dis bon, bah, il faut qu'on fasse le débarquement de Normandie, d'accord, à quatre. Bon. En littérature, vous voyez bien comment c'est simple. 100 000 soldats débarquèrent. Bon, voilà, c'est fait, 100 000 soldats débarquèrent, quoi. Bon. Eh bien, c'était l'idée qu'au théâtre, on pouvait tout faire. Tout, 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 et dans n'importe quelle situation. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on n'a aucun sou, même si on a zéro argent, zéro dollar, ou euro, ou roupie, ou peu importe, même si on a zéro, on peut tout faire. On peut tout faire. Et cette conviction de la force, de la puissance du théâtre, combinée au fait que c'est quoi ? C'est je m'avance et je dis qui je suis. Cette collision-là a fait en sorte que, bon, ben, quand je suis sorti de l'école de théâtre, je n'avais pas de travail, comme bien de mes copains. Et on s'est dit, ben, tant qu'à ne pas travailler, travaillons. Et comme on n'avait pas d'endroit pour travailler, on s'est dit, travaillons chez moi. Alors on a travaillé dans la cuisine, qui était la pièce la plus grande de l'appartement. Et le premier spectacle que nous avons fait avec ces gens-là, ça a été de se poser... Ce spectacle est né d'une question, qu'est-ce qui nous inquiète aujourd'hui ? Et après une semaine où on se voyait tous les jours, on partageait un repas, on discutait ensemble, une des choses qui a surgi, ça a été ce qui nous inquiète aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement notre mort que la mort de nos parents... Puisque là, nous avons 25-26 ans et on sent bien que le monde va bientôt nous tomber entre les mains. Il faudra bien qu'à notre tour, on ait à s'en occuper. Est-ce qu'on sait faire ça ? Est-ce qu'on saura être responsable ? Et de là naît l'histoire d'un jeune homme qui cherche un lieu pour enterrer le corps de son père, qui deviendra Littoral. Mais Littoral, on l'a répété dans une cuisine. On a répété 9 mois dans une cuisine avec un balai, une casserole, en poussant la table. Et de là sont nées des images. Des images qui n'ont pas été choisies, qui n'ont pas été voulues. Je n'ai jamais pensé que ça faisait image. Mais quand dans la pièce, quand vous écrivez dans la pièce Jeanne accouche de Wilfried, et vous arrivez le lendemain devant les acteurs, tu dis voilà, j'ai écrit la scène, voilà, Jeanne accouche de Wilfried. Je dis bon, mais là, ok, il faut qu'on fasse ça là dans la cuisine. Là, il y a l'évier qui est là, il y a le frigo, il y a une table, il y a 4 chaises. Comment on fait ça, un accouchement dans une cuisine Comment on fait ça ? Alors, ben, on se débrouille, on utilise la chaise, on essaye, on se dit, bon, ben, on va dire que Wilfried, c'est la bouteille. On va dire ça. On va dire, Wilfried, tu es la bouteille. Eh ben, on demande à l'actrice, peux-tu accoucher de cette bouteille ? Alors, l'actrice, qui n'a jamais accouché de sa vie, mime avec tous les clichés qu'on peut imaginer, un accouchement d'une bouteille. Et bon, on regarde ça tous avec beaucoup de sérieux. On se dit non, c'est pas très intéressant, ça marche pas, parce qu'au fond, ce qu'on te voit, c'est te battre avec une simple bouteille en plastique. Donc, il faut essayer autrement. Alors, on essaye autrement, on cherche, on trouve, on écrit, on réécrit, puis tout à coup, on tombe dessus. On se dit, ah, là, j'y crois, là, j'y ai cru. Mais on se rend pas compte qu'on vient de faire une image. Et après, quand on a cessé de répéter dans des cuisines, mais de répéter dans des locaux, quand on a eu des espaces, pendant très longtemps, j'étais convaincu que cette relation entre le texte et l'acteur était ce qui comptait le plus. Incendie, par exemple, qui raconte l'histoire de jumeaux qui cherchent à comprendre pourquoi leur mère s'est tue et qui vont arriver à une réponse absolument épouvantable. J'ai créé Incendie en disant aux acteurs, il faut qu'on soit capable de jouer cette pièce dans un ascenseur qui tombe en panne. Et on est pris là, dans cet ascenseur pris en panne, avec une personne qui panique. Et on va lui dire, ne paniquez pas, madame, on va vous jouer une pièce de théâtre, là, en attendant que les secours arrivent. Et j'aurais dit, il faut qu'on soit capable de jouer Incendie dans cet ascenseur et que la dame soit bouleversée. Complètement bouleversée. Que ça change sa vie. Du coup, le décor ne comptait pas à ce moment-là, la musique ne comptait pas, la lumière ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était ce rapport du texte dans le corps de l'acteur et dans le lieu où il se trouvait, peu importe ce lieu-là. Le décor, on en faisait un, mais on faisait quoi du décor ? Le décor était tout simplement une sorte d'écrin, puisque comme on jouait dans différents théâtres, c'était pour créer une forme d'uniformité pour les acteurs, pour qu'ils retrouvent un peu leurs repères, quoi. Pour pas que chaque fois on ait à se dire, bon. Puis parfois, franchement, il y a des théâtres qui sont franchement moches. Donc, ça protégeait la parole. La lumière aussi. La musique aussi. C'est dans Seul qu'il y a vraiment un renversement. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur Seul, qui est un spectacle que j'ai joué tout seul. C'est-à-dire, après Littoral, Incendie et Forêt, j'ai eu envie de remettre en question toute cette méthode, toute cette façon de travailler. J'en avais marre des acteurs. J'ai tout fait un tout petit peu de ces énormes histoires, de ces énormes sagas. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un solo. J'ai besoin de me retrouver tout seul dans un local de répétition et de voir qu'est-ce qui peut sortir quand je suis tout seul. Et de là va sortir de la peinture. Je me suis mis à peindre, j'ai tiré à l'arc. Pour m'aider, j'ai capté du son que je traitais sur mon ordinateur. Je me suis filmé et j'ai utilisé ces images. Et petit à petit, j'ai commencé à utiliser tous ces éléments-là, en plus de l'écriture, pour construire un spectacle que je faisais tout seul. Comme j'étais tout seul, j'avais besoin d'appuis. Et ces appuis, je les ai trouvés dans les vidéos, dans les sons, etc. Quand l'équipe de concepteurs est venue me rejoindre et je leur ai montré ce que j'ai fait, moi je croyais que j'étais encore dans un rapport texte-corps d'acteur, un peu comme dans les autres pièces. Sans me rendre compte qu'au fond, j'étais sorti de ce rapport pour rentrer dans un autre rapport qui est un rapport d'écriture qui est devenu au fond une écriture polyphonique. C'est-à-dire où, sans m'en rendre compte, par une forme de nécessité, parce que j'étais seul, le son que j'ai fait, que j'ai capté avec mon appareil, n'était pas au fond du son, c'était une écriture. Mais au lieu d'être une écriture textuelle, c'était une écriture sonore. La vidéo que j'ai tournée n'était pas une vidéo, c'était une écriture visuelle. Et que dans Seul, quand on a commencé à répéter et à créer Seul, on s'est rendu compte que si, par exemple, pour une séquence, on ne travaillait que sur la matière textuelle, la matière du texte que j'ai tapé sur l'ordinateur, c'est comme s'il manquait le trois quarts de la phrase. C'est comme si, dans une réplique, je n'avais pris que les trois premiers mots. Puisque les autres mots de cette réplique sont, un mot sonore, un mot visuel, un mot pictural. Et c'est là où il y a eu comme une rupture vraiment très importante par rapport à ce qui se passait avant, c'est que je ne pouvais plus penser l'écriture seule, je ne pouvais la penser que dans un rapport polyphonique avec d'autres écritures. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que si je confiais cette écriture sonore au sonorisateur, ça ne marchait pas non plus, parce qu'il faut que j'écrive moi. C'est comme si je donnais mon écriture à quelqu'un d'autre. Ça ne marchait pas. Il fallait que je fasse les prises de son. Il fallait que je fasse le montage vidéo. Il fallait que je fasse la prise vidéo. Il fallait que je la fasse moi-même, parce que tous ces éléments-là étaient au fond non pas de la vidéo ou du son, mais de l'écriture. Et la confier à quelqu'un d'autre, c'est comme si je disais à quelqu'un d'autre « Écris la scène à ma place ». Et cette compréhension-là a vraiment changé fondamentalement mon rapport au théâtre. Et je dirais que je suis encore un peu dans cette recherche-là, comme si j'avais été trop détourné, et je cherche comme si j'étais encore en train de chercher mes repères ou mon centre. J'ai plus envie de revenir à ce que je faisais avant, et je suis encore en train de chercher comment faire avec ces nouvelles écritures.
Est-ce que le fait qu'après, seul, tu en sois venu à un texte que tu n'as pas écrit toi-même, en tout cas entièrement, les Sophocles, est-ce que tu peux le lier à ce processus? C'est-à-dire que du coup, tu as écrit un spectacle quand même, d'abord en choisissant d'associer trois pièces de Sophocle dans des femmes, mais aussi en utilisant beaucoup d'autres éléments textuels, enfin d'autres langages que la langue, que les mots de Sophocle.
Les Sophocles font partie aussi de cette démarche, enfin c'est pas une démarche, mais de cette espèce de recherche qui est née au fond d'une... En fait, ça nous envoie aussi à autre chose, c'est que très rapidement, j'ai eu à gérer, au fond, ce que l'écriture que je faisais, comment dire, s'est mise à provoquer chez le public. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que... Je veux dire, c'était pas dans le programme, cette chose-là. C'était pas prévu que je remplisse des salles, par exemple. Je veux dire, moi, jusqu'à Incendie, on jouait devant des quarts de salle, quoi. Et c'était, moi, c'est pas que ça m'allait, c'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais j'avais pu imaginer que ça allait provoquer une rencontre avec un public. La plupart, au fond, surtout avec le public jeune, que ça allait créer cette espèce d'adhésion tellement forte sur le rapport à l'écriture. C'est comme si ça ne m'appartenait plus du tout. Et je savais pas gérer ça. J'ai pas su gérer ça. Je me suis pas senti pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, tout à coup, l'intrusion, j'appelle ça une intrusion, mais l'intrusion du public, l'intrusion des médias, l'intrusion des grands événements comme Avignon, comme bien des choses, ont été une chose extrêmement brutale. En même temps, paradoxale, parce que en même temps, extrêmement enivrante, extrêmement valorisante, bien sûr. Mais dans cette valorisation et dans cette espèce de reconnaissance incroyable de la part du milieu du théâtre, il y avait en même temps un malaise que je n'arrivais pas nécessairement à nommer, parce que il est difficile à nommer, mais qui était quand même présent, et je n'arrivais pas vraiment à gérer cette chose-là. J'avais l'impression que ça me... Comment dire? Ça me séparait d'une forme d'innocence. Je sais pas comment dire. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours fait les spectacles de manière innocente, et tout à coup, je commençais à me dire à moi-même, ah, mais là, peut-être qu'ils vont pas aimer ça cette fois-ci. Chose que je ne m'étais jamais dit. Et il fallait que je gère ça. Il fallait que je me parle, me dise oui, mais bon, mais en même temps, mais si. Il a fallu que je me fasse croire toutes sortes de choses aussi. Assumer ça, porter ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, j'arrête d'écrire. J'arrête d'écrire mes histoires. Je mets ça de côté, plus tard. Plus tard, je ferai autre chose. Puis, par exemple, quand j'ai fait Temps était une forme pour moi. Alors, c'était presque une forme de tentative de déception. Comment décevoir là? Je me dis faisons quelque chose d'obtus là, tu vois.
Mais en même temps, je voulais pas du tout décevoir. C'était vraiment une bataille continuelle. En faisant le spectacle, je me disais, avant de faire le spectacle, j'étais très sûr de moi. Je dis, je vais faire un spectacle, ça va être une espèce de suicide artistique. Après, je vais me retrouver en paix. On va me laisser tranquille. Il y a plus personne qui va venir voir les spectacles, sauf que quelques amis. Et puis, je vais pouvoir recommencer à retrouver cette forme d'innocence. Tant que j'avais pas commencé à faire le spectacle, ça allait très très bien. Mais évidemment, dès que j'ai mis les mains dans la scène, dès que évidemment, il y a instinctivement quelque chose de très très fort, qui est plus fort que moi, qui ne peut pas accepter une trahison face à la beauté, face à l'art, face à ce qui me porte. Et donc, plus fort que moi, je cherchais à rattraper le coup. Donc tout ça a été, je me suis dit, ok, je mets ça de côté un peu. J'avais l'impression que je ne savais plus écrire, j'avais l'impression que je savais plus mettre une phrase l'une à côté de l'autre, j'avais l'impression que je savais plus écrire une scène. Quand j'écrivais des dialogues, j'entendais tous ceux qui disent, ouais, mais bon, le théâtre, c'est quand même plus du dialogue, c'est un truc ancien, les dialogues. Bon, bah, alors j'écrivais plus de dialogues. Quand je me mettais à écrire des choses qui n'étaient pas des dialogues, je me disais, oui, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et c'est comme une forme de perte de repère, d'égarement, dû à une forme de tempête. Alors, croyant me sortir de cette tempête, je me suis dit, bon, on va faire un truc un peu tranquille, faire les trois Sophocles. Voilà, et donc je fais les Sophocles, mais dans un rapport, bon, pour parler que de l'écriture, dans un rapport à l'écriture qui est un rapport qui ne passait plus par moi, où je n'étais plus que le metteur en scène, entre guillemets, mais où je gardais quand même un rapport à l'écriture, puisque comme tu as dit, j'ai composé les choses ensemble. Mais c'était aussi une forme d'illusion de ma part de croire que je pouvais mettre l'écriture de côté. Ça se met pas de côté. Mettre ça de côté, quand on a mal aux dents, quand on a un mal de dents, on rêve tous pouvoir juste enlever la mâchoire et la mettre de côté pour dormir. On se dit, ok, je la remettrai demain. Mais on peut pas faire ça. On peut pas s'enlever la mâchoire. C'est un peu la même chose. Je ne pouvais pas m'enlever la mâchoire. Voilà.
Et tu as parlé tout à l'heure du rapport entre le jeu des acteurs et l'émotion des spectateurs. Mais il y a une chose qui me frappe dans tes spectacles aussi, c'est qu'à la fois, on se sent très proche des personnages qui ne sont pas très extraordinaires au départ. Lou, dans la forêt, c'est une adolescente de 16 ans qui est en crise. Bon, peut-être qu'on a tous plus ou moins traversé ça. Les jumeaux d'incendie, pareil, il y a une prof de maths, bon, pourquoi pas, on aurait peut-être pu être ça. Et en même temps, ce qui leur arrive ensuite introduit une espèce de dimension qu'on pourrait appeler mythique, hein, puisque souvent, il y a quand même des histoires qui ressemblent à celles qu'on voit dans la mythologie antique, qui les éloignent quand même de nous. Hein. L'expérience qu'ils vivent est quand même lointaine. Et à la fois, donc, le spectateur est bouleversé. Ça, c'est quelque chose. C'est une expérience que n'importe quel spectateur qui a vu ces spectacles a vécu. Bon, les autres spectateurs, au moins, en tout cas, sont bouleversés. Et en même temps, il y a cette espèce d'effet de distance, de recul, quand même, qui est lié à la dimension de ces intrigues, de ces histoires, qui maintient, malgré tout, aussi quelque chose d'autre que cette émotion pathétique. Que j'ai bien envie d'appeler tragique, enfin une espèce de grandeur comme ça, qui pour moi fait que l'émotion, enfin ce que ressent le spectateur est entre le pathétique et le tragique. Et j'aimerais savoir comment dans le jeu des acteurs, dans le travail que tu fais avec les acteurs, tu prends en compte ça, parce que j'ai le sentiment que ça n'est pas un jeu qui va entièrement du côté du quotidien ou de quelque chose serait du côté d'un naturalisme, même si parfois des éléments du spectacle pourraient tendre vers là.
Il y a deux choses qui m'ont guidé. Il y a un texte de Jan Patočka qui m'avait vraiment énormément touché. Jan Patočka est un philosophe tchèque qui est mort vraiment debout. Lors d'un questionnaire qu'on lui faisait faire. C'était un homme qui était déjà assez âgé. On l'a laissé debout, on l'a empêché de s'asseoir pendant 16 heures. Au bout de 16 heures, il est mort. Il est mort debout. Et dans ses écrits, alors qu'il écrivait ça pendant, alors que son pays était occupé, ce qu'on appelait à l'époque la Tchécoslovaquie, alors qu'il n'avait plus le droit d'enseigner, alors qu'il n'avait plus le droit d'éditer, il a écrit un essai qui s'appelle « Les essais hérétiques ». Et dans ces essais-là, il se posait la question comment être en Corse ? Quelle est la solidarité qui peut rassembler le plus de gens ? Il dit « Tout le monde n'est pas un intellectuel, donc la solidarité des intellectuels ne rassemblera pas tout le monde. Tout le monde n'est pas un ouvrier, la solidarité des ouvriers ne rassemble pas tout le monde. » Quelle est la solidarité qui rassemblerait tout le monde, même ceux qui m'oppressent à la limite, tout le monde. Et bon, c'est un platonicien, c'est quelqu'un qui est très très tourné vers ce qu'on appelait le soin de l'âme chez les Grecs. C'est quelqu'un, bon, c'est un très grand philosophe, c'est un grand penseur et tout. Et donc, il tire de sa pensée, il tire de sa tradition philosophique à laquelle il y croyait énormément. Il tire cette idée de solidarité des ébranlés. Il dit, au fond, on est tous ébranlés par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et cet ébranlement nous rend solidaires. Il va dire cette phrase, il dit, celui qui trahit la solidarité des ébranlés doit savoir qu'il est un embusqué qui, à l'arrière, vit grâce au sang des autres. Amener tous ceux qui sont capables de le ressentir à comprendre l'incommodité de leur position bien commode, voilà le sens que peut prendre aujourd'hui enfin, il dit pas l'art, mais ça c'est moi qui le dis, l'art ou la philosophie ou la pensée ou l'humanisme ou même la politique. Et ça, ça a été une chose très très forte, qui fait en sorte qu'une des premières choses que je dis aux acteurs, c'est, voyez la scène là, ce scotch blanc, eh bien, c'est un espace, on va s'entendre, c'est un espace qui ne peut être foulé que par des êtres ébranlés. Nous vivons au Québec, quand je disais ça, on était au Québec, nous vivons au Québec, c'était en 1994, tous les jours il y avait 40 000 morts au Rwanda. On venenait de sortir de la guerre de Serbie, du Kosovo, il y avait la guerre du Liban un tout petit peu avant, un peu, il y avait l'Iran, l'Irak. Bref, on se retrouvait comme une génération héritier de toute une série d'événements catastrophiques dont on n'arrivait pas au Québec, un pays éminemment en paix, à savoir comment se rendre utile. Quel sens ça a ? Quel sens ça a d'être artiste au Québec, quand au Rwanda, quand au Kosovo, quand au Tibet, quand au Congo, quand en Afrique, enfin bon, on fait quoi nous ? Je leur disais, on peut faire à notre mesure est toute petite, mais au moins on l'a fait, elle est toute petite, elle est franchement petite, mais c'est la nôtre. Et elle consiste à monter sur le plateau ébranlé, c'est pas grand chose, mais au moins on le fait. Alors, ébranlé par quoi ? Bah, par nous-mêmes, par l'autre. Ébranlé par ton père, ébranlé par ton frère qui peut plus parler. Et donc, je leur disais des images, je leur disais, voilà, si vous êtes ébranlé, vous, sur le plateau, il va y avoir une sorte de constitution virale. Il va y avoir un virus qui va se créer au-dessus de notre tête, qui va se composer lors de la représentation, et qui va, parce que le théâtre, c'est de la contagion, c'est des vivants devant des vivants, faire en sorte que le spectateur, nécessairement, un peu comme le rhume, quoi. Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un qui a le rhume, vous lui serrez la main, vous n'avez pas le rhume à l'instant, c'est 3 jours plus tard, vous vous mettez à éternuer. Eh ben, vas-y, le théâtre pourrait fonctionner de la même manière. Sur le coup, ils vont pas être contaminés par l'ébranlement. Mais peut-être que 3 jours plus tard, si on a été le plus incendiaire possible, peut-être qu'ils vont commencer à tourner l'histoire qu'on a racontée dans leur tête, dans la tête de leurs spectateurs. Je dis, mais pour ça, il faut que moi, au moment où j'écris, vous, au moment où vous jouez, moi, dans la manière de vous encourager à rentrer le texte dans vos corps pour le faire ressurgir ensuite, il faut absolument que cet ébranlement-là soit le plus vibrant possible. Et petit à petit, cette manière de... puisque je le dis là, c'est exactement ce que je dis aux acteurs. Pour le reste, ce que je leur dis, c'est un peu plus vite, un peu plus lentement, rentre plus tôt, sort plus tard, quoi. Mais il y a très peu de psychologie du personnage. Il y en a très, très peu. C'est souvent des images. Je vais leur dire à un moment donné, bon, là, aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est vous allez faire le filage, mais vous allez imaginer que vous parlez pour votre frère qui est juste à côté de vous et qui est tétanisé, qui en a perdu la langue. Donc vous parlez pour lui. Comme dans une soirée là en famille où tout le monde, tout à coup, toute la famille tombe sur une personne et puis vous ressentez ça comme une très très grande injustice et tout à coup vous vous mettez à le défendre. Alors vous prenez la parole, mais cette parole c'est pas pour vous, c'est pour lui, vous le défendez. Ben, c'est la même chose. Défendez celui qui ne peut pas parler. Et dans Forêt, la scène s'ouvre sur un repas où tout le monde dit des banalités. Mais même dans ces banalités, je leur demande de dire les choses portées par cette dimension éthique, poétique, sensible, affective, qui fait en sorte que au fond, ils ne sont jamais en train de jouer la situation telle qu'elle est décrite. Même s'il est en train de lui dire « passe-moi le sel », il joue pas « passe-moi le sel », il joue « ma mère est malheureuse », c'est ça qu'il joue. Il joue pas « passe-moi le sel », mais il dit « passe-moi le sel ». Le spectateur, lui, il entend « passe-moi le sel ». Mais cette dimension devient plus grande, et ça, c'est pour moi une autre image très importante, c'est la cathédrale Notre-Dame. Quand j'ai vu la cathédrale Notre-Dame, alors que j'attendais un ami qui n'arrivait pas, qui était en retard, et j'ai vu arriver sur le côté de la cathédrale une dame assez âgée qui marchait à l'aide d'un déambulateur. Elle est passée devant moi et elle a tourné à droite et elle est rentrée dans la cathédrale. Et je me suis dit, une chance qu'il n'y a pas des escaliers. Et quand j'ai dit ça, j'ai été frappé par le fait que je n'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas d'escalier pour rentrer dans la cathédrale Notre-Dame. Elle est posée au ras du sol. Et ça m'a vraiment frappé et assez ému, parce que je me suis dit, en fait, c'est presque un rapport inversement proportionnel. C'est facile d'y rentrer, c'est un rapport inversement proportionnel. L'image inverse, ça serait de mettre, je sais pas moi, une plomberie en haut d'un grand escalier de marbre. Vous imaginez, il faut monter, je sais pas... 100 marches pour arriver à une plomberie où on rentrerait pour s'enquérir d'un tuyau. On se dirait quand même, c'est un peu exagéré. Ben, l'inverse, c'est un peu l'inverse. On est devant une cathédrale, le mysticisme, le métaphysique absolu, mais on y rentre comme dans une boulangerie. On ouvre la porte, on rentre. Et je me suis dit alors, ah là là, c'est quand même formidable. C'est facile d'y rentrer, mais c'est difficile d'y pénétrer, en fait. Et cette expression-là a été pour moi comme une sorte de clé pour comprendre comment commencer un spectacle. Tous les spectacles que j'ai faits, du coup, j'étais en train de travailler sur Forêt. Je me suis dit, ouais, ça va commencer un repas entre copains. Les gens rentrent, ils sont contents de se voir. On a tous vécu ça. On ouvre la porte, on rentre. Et puis, pendant ce repas, à un moment donné, la femme chez qui se passe la fête, très très émue, demande le silence lors du repas, elle claque sur son verre, elle se lève et elle dit à ses amis, je vous ai invité aujourd'hui parce que vous êtes mes amis et je vais vous dire pourquoi je vous ai invité, c'est pour vous annoncer que je suis enceinte. Et alors là, ils sont tous très 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 contents. Bon, ça, qui n'a pas vécu ça? Ou presque. On a tous été un peu dans cette situation-là. Et je me suis dit, comment c'est Forêt qui va devenir une forme de cathédrale épouvantable avec une histoire épouvantable par une scène qu'on a tous vécue, c'est à la fois poser l'entrée dans le tragique comme une entrée par laquelle tout le monde peut rentrer. Mais aussi poser la vie quotidienne comme un espace tragique par le jeu des acteurs. Donc c'est cette espèce de combinaison entre les choses où j'essaye de faire en sorte que la moindre chose ait une dimension qui soit plus grande qu'elle. Un peu comme dans Seul avec les ombres qui se promènent sur le mur.
Et donc cette grandeur que tu cherches à maintenir toujours dans tes spectacles, est-ce que c'est lié à la question de la fonction de l'art que tu évoquais là un petit peu en creux, en disant voilà, pourquoi créer dans un monde où il y a des massacres au Rwanda, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est aussi un petit peu frappant dans ce que tu fais, c'est que certains de tes spectacles sont liés à la grande histoire, bon, en particulier Incendie et aussi dans une certaine mesure Forêt, mais en même temps on sent bien que ça n'est pas ça qui est au cœur des spectacles, ça n'est pas ça qui agit d'abord sur les spectateurs. Il ne s'agit pas du tout d'expliquer aux spectateurs comment on aurait pu éviter la Seconde Guerre mondiale ou quoi que ce soit. Donc cette articulation entre l'art, la poésie au sens large et le réel historique, comment est-ce que tu le penses? Quelle est la fonction de l'art? Quelle est la nécessité de l'art dans ce monde? Et est-ce que cette grandeur mythique, elle a quelque chose à voir ou pas du tout?
Peut-être que c'est encore la fonction du miroir, je dirais. C'est que le théâtre demeure encore un espace dans lequel on se voit. Parfois, on se voit tel qu'on n'a pas envie de se voir. La scène mythique là-dessus, c'est la scène du théâtre dans Hamlet, quand le roi se voit en assassin. Bon. Mais c'est quand même la fonction du miroir. Or, le miroir que j'essaye de construire, c'est peut-être le miroir... un miroir préparatoire, un miroir qui aide celui qui regarde à se préparer. J'ai toujours cru que si, j'y crois encore, même si je commence à avoir des doutes, mais j'y crois encore, que si on assiste aux sentiments tragiques régulièrement, par le biais de la fiction, lorsque ce sentiment tragique va surgir, ou surgit, pas va surgir, mais quoi qu'il va surgir, un jour on va mourir, bon... quand ce sentiment, quand le tragique surgit dans nos vies, on n'est jamais préparé et on chute, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que celui qui a été, fréquenté par la fiction, par l'art, par la littérature, la sensation du tragique via un personnage, en se disant au fond de lui, oh, j'espère que jamais un truc comme ça ne m'arriverait. J'ai pas envie de vivre ça, c'est sûr. Perdre ma mère dans telle situation, là, je pense à Lou, ne pas connaître mes parents, ou bon, peu importe, découvrir que je suis la fille de mon. Et, on n'a pas envie de vivre ça, mais le fait de le vivre par le miroir fait en sorte que on est peut-être. On se construit pour pouvoir le vivre, le traverser lorsque, si jamais, cette chose-là nous apparaît. Je ne dis pas que c'est ça la fonction de l'art, hein, essentiellement. Je dis que pour moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, cette question-là. C'est que, au fond, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand le quotidien est tranché? Au fond, ça, c'est, je crois, parce que la plupart des pièces commencent par la mort du père, la mort de la mère, la mort de la mère, la mort du père, bon, une perte. Dans Anima, ça commence par la perte d'un amour, et de la manière la plus violente possible. Alors pourquoi ces débuts? Ces débuts peut-être parce qu'ils renvoient à, au fond, une frayeur archaïque chez moi, là, c'est de rentrer à la maison et le quotidien est détruit. Vous voyez, on est tous ici dans un état plutôt stable, plus ou moins, les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe si le téléphone sonne, là, le téléphone de l'un d'entre nous sonne, et on verrait quelqu'un tout à coup crier, se lever et sortir en courant, parce que là, le quotidien est tranché. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on chute? Comment on fait? Comment on fait? Et cette question-là, elle me hante énormément. Elle me hante concrètement. Elle me fait peur. Elle se retrouve dans ce que j'écris. Anima, c'est la pure quintessence de ça. Ça commence comme ça. Ils avaient tant joué à mourir dans les bras l'un de l'autre qu'en la trouvant ensanglantée au milieu du salon, il crut tout d'abord à une blague. Il eut envie d'éclater de rire jusqu'à ce qu'il comprenne que non, elle était morte. Elle était vraiment morte puisqu'elle avait le couteau là planté dans le ventre. Ça commence comme ça. Et ça, cette chose-là, cette chose qui tranche le quotidien,
et peut-être me pose une question à laquelle je tente de répondre dans les pièces que j'écris ou dans les romans que j'écris, c'est comment après ? Comment après ? Et comment faire en sorte que la vie soit toujours plus forte ? C'est pas dogmatique chez moi, c'est un désir infini, c'est une forme d'optimisme voulu, choisi, pour pas donner à la guerre le dernier mot de la fin, pour pas donner à la guerre la victoire, pour pas donner à cette chose qui a massacré un peu ma famille, lui donner le mot de la fin. Donc il y a chez moi une nécessité de pas dire je me rends compte que je peux très bien faire des pièces qui disent comment le monde est, mais je sais comment il est, j'ai pas besoin d'aller au théâtre pour ça, je sais très bien comment il est. Ce que je ne sais pas, c'est comment il pourrait être c'est... J'ai envie d'être devant une question, pas devant une affirmation. J'ai envie de me dire comment ça peut se passer après ça. Comment ça peut se passer après ? Parce que tant qu'on dit comment ça peut se passer après, ça veut dire qu'il peut y avoir encore une solution. Autre chose, une vie, un enfant là qui débarque, on ne l'attendait pas, ou bien le fils revient, ou bien ouais, ta mère là que t'as jamais pu supporter de ta vie là, bah oui, bah elle t'a souri sur son lit de mort. Cette espèce de désir volontaire, là c'est volontaire, de me dire que non, c'est pas fini, crée peut-être cette énergie dans laquelle se retrouvent au fond précipités et les personnages, et les acteurs, et les concepteurs, et les spectateurs, et tout le monde, quoi. Une espèce d'énergie qui dit c'est pas fini.
Et c'est ça aussi qui fait qu'on a ce processus qu'on retrouve dans la plupart de tes pièces, qu'on peut appeler une catharsis, c'est-à-dire que cette dimension tragique, elle se résout aussi de façon plutôt optimiste, ou en tout cas, on termine sur quelque chose... Enfin, les pleurs que le public verse à la fin du spectacle sont quand même des pleurs de soulagement aussi. Et on reste pas sur cette angoisse, alors que la pièce est traversée par la violence, la laideur... l'horreur, et parfois de façon très violente. Enfin, dans Temps, par exemple, on arrive à une forme de quintessence de ça.
Je me rends compte que je n'arrive pas encore, même dans Anima, alors que dans Anima, il y a vraiment le pire du pire, je n'arrive pas à finir mal. J'arrive pas à faire une fin affreuse. Je n'y arrive pas. Et c'est intéressant parce que la fin, c'est au fond, c'est vous qui décidez où est-ce que vous arrêtez. Par exemple, dans Incendie, j'aurais très bien pu arrêter au moment où les jumeaux apprennent la vérité. Stop. Mais j'ai choisi d'arrêter après les lettres. Bon, j'aurais pu très bien choisir d'arrêter au moment où les jumeaux décident de refaire leur vie. Mais j'ai choisi d'arrêter après les lettres. Donc, j'arrête au pinacle d'un instant d'émotion. Pourquoi je choisis ça ? C'est parce que peut-être il faut bien qu'on rentre chez nous, quoi. Faut bien que les gens rentrent chez eux. Faut bien qu'on recommence. Faut bien continuer. Puis je pense que c'est la notion du miroir qui m'importe plus qu'autre chose. La notion du miroir, c'est aussi de dire, de faire éprouver presque par flagrant délit d'imagination, dire au spectateur, vous voyez, vous pouvez pas nier que vous avez ressenti ça. Vous avez été traversé par l'horreur et au fond, vous êtes capable de vous lever, de sortir du théâtre. Et de retrouver la vie et d'être dans un rapport paradoxal mais extrêmement vivant. Je me sentirais très très absolument pas à ma place s'il fallait que je fasse des spectacles qui disent aux spectateurs nous vivons dans un monde qui va à sa perte, il n'y a pas d'espoir, nous allons tous nous faire avoir. On peut en attendant s'amuser un peu entre nous. Mais tout ça n'est que broutille, on va se faire avoir. J'ai pas envie de faire ça parce qu'on le sait. On le sait très bien. Ça me ramène à cette question, quand quelqu'un dit, par exemple, avec des amis, parfois on pose cette question, quand quelqu'un dit, moi je veux pas avoir d'enfant, parce que je ne veux pas amener un enfant dans ce monde-là. Une pensée qui est quand même assez forte. Et souvent, je me suis dit, mais quand même, c'est vrai, je comprends très très bien. Mais il faut quand même bien le faire, cet enfant ou ces enfants qui vont parfois trouver la loi qui va arranger tel problème dans la société. C'est quand même des humains qui font des lois. Ça tombe pas du ciel. Il faut bien que quelqu'un fasse une ONG quelque part. Il faut bien que quelqu'un la fasse, cette ONG. Il faut bien que quelqu'un, devienne un homme politique va être plus fort que les précédents ou les autres, et qui va trouver le courage d'être courageux, mettons. Il faut bien qu'il naisse. Faut bien le faire, quoi, je sais pas, mais donc je me dis dans ce sens-là, faire des enfants pour les jeter dans la bataille, au fond. Et le théâtre, pour moi, prend un peu ce sens-là, c'est faire du théâtre pour le jeter dans la bataille.
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un élément qui peut-être est une espèce de figure de contrepoint à l'art ou au théâtre dans ton œuvre, mais je ne suis pas très sûre. Enfin, c'est un élément qui me semble avoir une certaine importance, c'est la logique. D'abord, il y a le nom de tes compagnies. AB carré, C carré et le carré de l'hypoténuse, donc qui renvoie quand même à ça. Il y a le personnage de Jeanne, pardon, qui est professeure de mathématiques. Il y a aussi le trajet de Arwan dans Seul, qui va vers l'art ou la peinture depuis un travail qui est plus construit rationnellement, qui est la thèse. Et donc voilà, est-ce que ce couple-là, logique-art, fonctionne comme ça, de façon dichotomique pour toi ?
Je vais peut-être parler du carré de l'hypoténuse, qui pour moi va répondre un peu à cette question. Alors vous voyez tous ce que c'est un triangle-rectangle ? Bon. Alors, vous voyez un triangle-rectangle. Alors, prenons le triangle-rectangle dans son angle droit, comme ça. Et puis prenons les deux segments qui forment l'angle droit. Et ramenons-les à leur plus petite expression au moment où ils étaient qu'un seul point, côte à côte. Imaginons que ces deux points, on va les appeler, on va les investir de sensibilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être que deux points, ce sont deux frères, sont deux amis. Sont deux peuples, sont deux territoires, sont deux ce qu'on veut. C'est deux êtres ou deux tribus ou deux peuples ou bon, qui sont côte à côte, qui sont très proches l'un de l'autre. Puis évidemment ils sont tous les deux dans l'existence, dans la vie, donc ils sont sur la ligne du temps. Et le temps avance, donc au fur et à mesure que le temps avance, ils évoluent, ils se transforment, ils changent, parce que c'est ça la vie. Et il y en a un qui prend cette direction-là, qui consiste à aller vers le nord, et l'autre va un peu plutôt dans cette autre direction qui est vers l'est. Ou l'ouest pour vous, voilà. Et puis... voilà, il y a une petite distance, mais c'est formidable cette petite distance parce que ça leur permet d'échanger encore mieux. C'est encore plus formidable maintenant, cette distance-là, elle est encore plus merveilleuse. Puis le temps avance, et puis voilà, ils ont grandi, chaque peuple ou chaque être, ou chaque la mère et son fils, le père et sa fille, peu importe, les amis, bon. Et puis à un moment donné, il y a une divergence d'opinion, on ne voit plus les choses de la même manière, mais on est encore quand même extrêmement respectueux, on s'aime, etc. Et puis bon, le temps continue à avancer. Et là, à un moment donné, il y a une véritable distance qui s'établit. Je ne vois plus mon frère, je ne vois non ma mère. Ouais, c'est marrant ma relation avec ma mère. Bon, ces peuples-là, ils avaient quand on pense quand même que tel peuple, etc., etc. Et puis bon, à un moment donné, il y a une fracture. Un événement vient et le sac sort, le chat sort du sac plutôt. Et là, c'est le je ne veux, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus mon ami, je ne veux plus jamais te voir, je te déteste, je ne me parlais plus d'elle, je ne supporte pas ce bonhomme, c'est un salopard, c'est un connard. Quand je pense qu'il a été proche de moi, quand je pense que, mais quand j'ai appris ce qu'il a fait à ma mère, puis oui, puis bon, etc., etc. Bon, et là, il y a une rupture. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est s'ils devaient se retrouver, comment ils peuvent se retrouver, sachant qu'on ne peut pas revenir sur le temps. On ne peut pas remonter le temps et revenir au moment où les deux points étaient côte à côte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le segment le plus court qui va les rapprocher, c'est ce segment-là qu'on appelle l'hypoténuse. Alors, cette hypoténuse, ça peut être quoi ? Ça peut être une phrase. Ça peut être un mot. Ça peut être... Et ça peut être, et si on allait finalement faire si on allait faire cette marche qu'on a toujours voulu faire, tu sais, quand on était enfant, et ça peut être une lettre, ça peut être un mot, ça peut être une parole, enfin, ça peut être quelque chose. Il existe un geste, qu'on peut appeler le geste hypoténuse, qu'on peut appeler le mot hypoténuse, qu'on peut appeler la phrase hypoténuse, qui rassemble les deux segments qui étaient arrivés à l'endroit le plus éloigné l'un de l'autre, alors que fondamentalement, ils avaient été tellement proches. Qu'est-ce qui peut les rapprocher? Quelle phrase peut les rapprocher? Je crois que, justement, entre la beauté et les mathématiques, ce sont deux formes d'expression qui ont tracé une hypoténuse tellement forte à travers l'histoire, moi, dès que je me mets à penser à mathématiques et à art, je n'ai qu'à penser à Léonard de Vinci, mais pas seulement, à Pascal, aux Grecs au complet, aux Arabes, à tous ceux qui ont été capables de calculer la beauté ou ceux qui ont été capables de faire en sorte que la beauté devienne une logique absolument monumentale. Donc si beauté beauté et logique sont capables de se retrouver, ça veut dire que des humains peuvent aussi se retrouver. Ça me ramène un peu à cette question du plus éloigné de soi. Au fond, c'est très chrétien, enfin bon. Cette question du aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, elle me foudroie, cette pensée-là, parce qu'au fond, on peut se dire, mais c'est qui ton prochain? Alors, évidemment, moi, si, mettons, je pense à la personne avec qui je partage ma vie, et je me dis, aime ton prochain comme toi-même, c'est facile. Je l'aime, c'est facile. Mettons que c'est ma sœur, mon prochain, c'est facile, c'est ma sœur. Mettons que c'est Tiffen, c'est facile aussi, c'est une amie. Mettons que c'est le concepteur avec qui je travaille, ça va, tout ça c'est facile. Mettons que c'est la personne qui conduit l'autobus. Bon, je la connais pas bien, mais quand même, je l'aime bien, il conduit l'autobus. Mais vous voyez, si je m'éloigne et je continue à m'éloigner, je vais arriver où? Si je dis que le prochain, c'est la personne la plus éloignée de moi, c'est nécessairement celui dont je souhaite la disparition. C'est, quand j'étais petit, c'est le druze, c'est le juif, c'est le palestinien, c'est lui dont je souhaite la disparition, qui, au fond, est le prochain. Alors, au fond, cette espèce d'hypoténuse dont il faut trouver la phrase, le geste, la ligne, on peut le placer sur un plan intime, mais on peut le placer sur un plan politique. Hein, ce qui se passe au Moyen-Orient, depuis quand ils cherchent la phrase hypoténuse, là? Ce qui se passe, au niveau politique, au niveau... cette relation entre l'intime et le collectif, pour moi, se retrouve aussi totalement combinée dans ce paradoxe de l'éloignement et du rapprochement.
Et donc, on voit bien qu'il y a une continuité. Finalement, tout ce dont tu parles, là, ça s'applique à tes différentes œuvres. Et en même temps, il y a quand même des ruptures, comme tu décrivais tout à l'heure, avec le moment de seul... Il y a, on sent quand même une volonté d'expérimenter toujours ailleurs, de déplacer les choses, comme tu nous l'as expliqué. Voilà, t'en as marre des acteurs, ou tu veux essayer d'écrire avec autre chose que les mots, etc. Et tu écris du théâtre, tu as écrit deux romans, tu montes tes propres textes, tu montes d'autres textes. Qu'est-ce que tu peux imaginer d'autre encore? Ou est-ce que tu imagines déjà un petit peu d'autres choses?
Je me suis mis à faire de la confiture. C'est vrai. Bon, mais on va pas parler de la confiture. Mais... c'est intéressant parce que j'ai amené quelque chose. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça pouvait être le mot de la fin, mais le mot, c'est peut-être un peu rapide parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça peut pas être, c'est pas vraiment un mot, mais bon. Voilà. L'année dernière, je devais faire deux créations que j'ai annulées parce que je me rendais compte que je n'avais plus envie, j'avais pas envie, je ne me sentais pas prêt à retourner dans un rapport de création avec un spectacle fait pour être vu par le public. J'avais comme un besoin de pause. Donc j'ai demandé au théâtre avec lesquels je devais faire ces spectacles s'ils acceptaient une chose un peu particulière qui consistait à annuler les représentations qui étaient prévues, mais de garder les répétitions. Alors ils me disent, mais tu vas répéter quoi? Je dis, justement, je vais répéter des choses que je n'ai pas besoin de construire Je n'aurais pas besoin de leur trouver une cohérence, j'aurais pas besoin d'angoisser avec l'idée de trouver une construction. Appelons ça un laboratoire. Un laboratoire qui va me permettre de chercher sur le plateau des choses que je n'ai pas le temps de chercher lorsqu'on est en train de répéter un spectacle. Parce qu'au moment où on est en train de répéter un spectacle, on est pris devant la nécessité d'arriver aussi au spectacle. Et parfois, quand on se dit on va essayer telle chose, on l'essaye, mais très rapidement, on se dit que si on continue à l'essayer et à la chercher, ça va prendre 2 semaines de travail. Et là, on risque d'être dans un rapport de... Bon, vous voyez, le deadline, la première, devient parfois une chose oppressante qui empêche d'aller au bout d'une forme d'exploration, pour moi en tout cas. Surtout lorsqu'il y a un texte, avec un début, un milieu, une fin, avec une écriture, avec bon, un rapport. Et j'avais besoin de me sortir, de m'échapper de ça pour pouvoir construire sans... De pouvoir créer sans construire en cohérence, pouvoir en fait faire de la matière. Pouvoir faire de la matière, une matière qui ne serait pas dans un but de spectacle, mais qui aurait comme but d'être une matière, un langage que je n'avais jamais encore exploré, etc. Et les théâtres ont accepté de faire ça, et je me suis retrouvé donc pendant 3 semaines dans un premier temps, dans un théâtre à Nantes, au Grand T, sur un grand plateau, où j'avais le théâtre pour moi tout seul pendant 3 semaines. Donc j'avais des projecteurs, j'avais un atelier presque, j'avais de la peinture, j'avais du plastique, j'avais un mur sur lequel je pouvais faire ce que je voulais, j'avais un projecteur vidéo, j'avais du son, et j'avais du temps. Et je m'étais donné un horaire très précis, je répétais de 13h à 23h tous les jours. Alors il faut imaginer ce que c'est, parce que vous arrivez à 13h au théâtre, vous arrivez à l'heure, mais il n'y a personne qui vous attend, il n'y a personne qui vous demande rien du tout. Vous arrivez à 13h et vous commencez. Mais vous faites quoi? Vous êtes seul. Alors au début, ça a été long, j'ai fait beaucoup de siestes. C'est vrai. Et puis petit à petit, sont nées des choses. Alors il y a eu des bribes de textes que j'ai écrits, que j'ai enregistrés. Une fois que je les ai enregistrés, je les ai diffusés dans le théâtre. Je les ai écoutés en boucle pendant 1 heure ou 2 heures. Et là, parfois, surgissait une sensation, une idée. Je la mettais en application. Pour la mettre en application, parfois, ça me prenait 3 heures de préparation. Puisque j'étais seul, je devais tout faire tout seul. Bon. Les journées commençaient à passer comme ça, dans un rapport très enfantin. Comme un enfant qui joue tout seul dans sa chambre. Et puis, à un moment donné, a surgi d'autres matériaux. Dont un, qui est un matériau vidéo. C'est-à-dire qui est une matière textuelle vidéastique, je dirais. Qui m'est venu comme ça, dans un espèce d'éclat de rire. Je me suis dit, oh ben non, ça va pas marcher, non, je peux pas faire ça, franchement, ça va être ridicule. Mais comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis dit, je vais le faire. Ça m'a pris 1 heure à préparer la caméra, à préparer la lumière. Ça m'a pris 1 heure pour préparer une bande son qui allait m'aider à le faire. Une fois que tout était prêt, je l'ai fait. Je tournais ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un montage. Une fois que j'ai fait le montage, je l'ai projeté. Et là, j'ai eu l'impression que je passais dans un autre monde, que je passais dans un autre jardin. Alors, je vais vous le montrer. Peut-être, je ne sais pas, combien de temps on a, mais ça ne dure pas longtemps, ça dure 4 minutes, 5 minutes. Je vais vous le montrer, et puis si tu as envie de me poser d'autres questions après, on verra. Alors, peut-être même, Tiffaine, ce serait mieux peut-être que tu ailles dans la salle, parce que tu vas mieux l'écouter, parce qu'il est... le son est dirigé vers la salle. Donc voilà ce que je fais maintenant.
Je crois que ça va devoir être la dernière question, mais c'est quand même une question importante. Donc il y a cette tension là dans l'image entre la sauvagerie de l'animal et cette musique, la beauté de la musique qui évoque plutôt une dimension spirituelle de l'homme. Donc moi j'y vois comme ça 2 pôles. De l'humanité, et en même temps ça me fait penser à Anima. On n'a pas parlé de cette place de l'animal qui a l'air d'être un... Enfin, bon, Animan, tu l'as pas écrit il y a 6 mois, je pense. Mais quand même, ça a l'air d'être un thème qui te travaille. Qu'est-ce que ça dit de l'humain, l'animal ?
Bah, je pense que fondamentalement, ce que ça remue en moi, c'est cette perte d'enchantement qui était si propre à l'enfance, où l'enfance, la mienne, était tellement liée au monde des animaux, dans un instant extrêmement enchanté, magique, extrêmement entier, et puis que ce soit Anima ou que ce soit par exemple cette vidéo-là, que j'ai comprise plus tard en la fabriquant, en la faisant, au fond, ce rapport de violence, c'est peut-être quand je l'ai vu la première fois, ça veut dire parce que ça a été très long à monter, vous imaginez bien, c'est un montage. Vous travaillez là sur un tout petit truc là, ça prend des heures à faire. Puis ensuite je l'ai projeté, j'étais tout seul au théâtre, je l'ai lancé et je l'ai écouté et je me suis dit tiens, si je devais montrer une image pour décrire l'enfant que je suis, ce qui est devenu l'enfant que j'ai été, c'est cette image-là. L'enfant que j'ai été, c'est lui. Et cette expression a été pour moi un renversement, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours imaginé l'enfant que j'ai été comme un petit garçon sympa, les cheveux frisés, qui cueille. Hein. Mais tout à coup, de le voir dans ce rapport de colère, de rage, justement envers la perte, a été pour moi un déclencheur très très important, très très important, même par rapport au prochain spectacle que je vais faire. C'est-à-dire que cette vidéo-là, elle est pour moi, je sais pas ce que j'en ferai, je sais pas si elle sera utilisée à l'intérieur d'un spectacle ou pas, j'en ai aucune espèce d'idée, mais son existence, le fait qu'elle a existé parmi plein d'autres vidéos là que j'ai fabriquées pendant cet endroit-là, cette vidéo clairement m'a propulsé ailleurs de l'endroit où je me trouvais. Avant, je me dis, il faut que je travaille comme ça maintenant. Il faut que je travaille comme ça. Ce comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut que je travaille comme ça. C'est très important pour moi. C'est comme si j'ai redécouvert en faisant ça un plaisir que j'avais perdu depuis longtemps par rapport au théâtre. Il faut que je travaille comme ça. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire comme ça. Peut-être dans un an, lorsque je ferai un spectacle, j'en comprendrai un tout petit peu plus là-dessus.
Il y a quand même donc l'idée de ne pas forcément passer par les mots.
Ben oui, il n'y a même plus de mots là. Ouais. Mais la vidéo dit des choses. Ouais. C'est là où la vidéo devient du texte. Au fond, c'est du texte, sous forme visuelle. Mais c'est du texte, je le pense comme un texte. Mais au lieu d'avoir écrit le texte dans lequel on aurait pu avoir des mots qui auraient traduit cette émotion, c'est comme si là je passais par un autre vecteur, que je recherche aussi par le son. J'ai travaillé sur toute une série de pistes de sons qui n'ont pas d'image, qui ne sont que du son, en tentant de trouver des sensations que jusque-là j'ai essayé de trouver par le texte.
Et l'animal, donc là il est lié à l'enfance, est-ce que dans Anima c'est la même chose ?
Oui. Est-ce qu'il est lié même ? Oui et non. C'est-à-dire oui par rapport à l'histoire du personnage. C'est ce qui fait en sorte que... Parce que bon, Anima, c'est l'histoire d'un type qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rentre chez lui un matin et qui découvre la femme qu'il aime sauvagement assassinée. À partir de ce moment-là, il va commencer une quête qui va le ramener très très loin. Or, tout cela est raconté du point de vue des animaux. C'est toujours, au début, c'est un chat qui raconte, ensuite ce sont des oiseaux, ensuite un chien, un pigeon. C'est toujours un animal qui raconte, qui est le narrateur. Et petit à petit, on va comprendre que la raison de cela est liée à ce qui est arrivé à cet homme quand il était enfant, lorsqu'il a été, son destin a été intimement lié à des chevaux, grâce à qui il est resté en vie, presque. Bon, ça c'est une chose, mais il se trouve que du côté de l'auteur, de la personne que je suis qui écrit ce roman, passer par les animaux me renvoie à l'enfance tout de suite. Et me renvoie à l'enfance dans un rapport qui est encore une fois celui qui consiste à tenter de donner la parole à celui qui ne peut pas la prendre, de donner la parole à celui qui est éloigné de moi. La lecture d'Elisabeth de Fontenay, le silence des bêtes, a évidemment été pour moi quelque chose de fondamental dans cette compréhension de ce que c'est que donner la parole à l'autre
donner la parole à celui qui n'est pas comme nous, celui qui est loin de nous. Enfin, bon, ça, je reviens un peu sur les mêmes thèmes, mais c'est sûr que dans Anima, il y avait aussi ce désir-là.
Et c'est pas aussi cette part de nous qui n'est pas rationnelle, etc. Ça rencontre pas ça.
Il y a sûrement de ça. Tu sais, c'est comme si j'ai pas pu déterminer encore tous les signifiants de Anima. Parce que moi, quand je l'écrivais, je me disais pas tout ça. Moi, j'écrivais l'histoire. J'étais pris dans les tissus de ce truc. Une scène où une coccinelle doit dire, il est entré dans la cabine téléphonique, il a décroché le téléphone. Mais une coccinelle peut pas dire cabine téléphonique. Ça n'existe pas dans la vie d'une coccinelle, cabine téléphonique. Donc, j'étais beaucoup dans comment la coccinelle va dire la chose pour que le lecteur comprenne cabine téléphonique sans que la coccinelle dise cabine téléphonique. Puisque ça n'existe pas une cabine téléphonique dans la vie des coccinelles. Donc j'étais pris complètement, moi, dans la mécanique du roman, dans la texture du roman et dans l'émotion brutale du roman quand elle me prenait pour l'écrire. Mais j'ai de la difficulté à être encore dans les signifiants de, surtout du point de vue des animaux, sur ce que ça signifie. Et je sais pas si c'est réussi encore complètement, est-ce que je suis pas tombé dans un trop grand anthropomorphisme, je sais pas trop, c'est des questions auxquelles je pourrais répondre peut-être plus tard quand je me serai un peu éloigné de la sortie du roman.
Bon, je crois qu'il est l'heure, hein, c'est ça.
Peut-être redonner la parole quand même au public
à la salle, pardon.
Une ou deux questions.
Juste un petit point de détail. Vous êtes francophone à l'origine ou est-ce que vous avez écrit dans d'autres langues ?
Alors, à l'origine, je ne suis pas francophone, je suis arabophone. Quand on est arrivé en France, je ne parlais pas français. J'ai appris à parler le français en France. Et très vite, j'ai perdu la langue maternelle. Ce qui fait en sorte que lorsque je me suis mis à écrire, bien des années étaient passées depuis notre départ du Liban. De sorte que je ne pouvais plus écrire en arabe et je n'ai écrit qu'en français jusqu'à présent.
Bonjour, j'ai une question un peu personnelle, mais parce que vous avez parlé du besoin de refaire de la matière pour écrire et créer, et je voulais savoir est-ce que la matière qui vous a servi pour vos pièces précédentes, ça vient essentiellement du deuil et du choc de l'inexistence. Est-ce que c'est cette recherche-là de mettre des mots sur... le vertige de l'inexistence qui est... Voilà. Est-ce que c'est ça que vous avez épuisé un peu ?
Il y a plein de choses. Il y a ça. Mais il y a aussi, par exemple... parce que le théâtre, comme vous le savez, le théâtre, c'est beaucoup le corps des acteurs, c'est beaucoup la présence des acteurs. Et lorsque vous écrivez la pièce au fur et à mesure des répétitions, pour les acteurs avec qui vous travaillez, il y a aussi la vie des acteurs. Il y a aussi quand un acteur... Dans Temps, par exemple, il y a une réplique que j'ai écrite parce que la comédienne m'avait raconté comment, à un moment donné, enfant, elle a été dans une situation où elle a vu son père a eu une défaillance devant elle, il est tombé, et elle a essayé de le ranimer, mais elle n'a pas pu. Elle était petite, elle avait 8 ans. Et quand elle m'a raconté ça, ça m'a absolument bouleversé. Vraiment, profondément bouleversé. Et pourtant, c'est pas ma vie, c'est pas moi. Mais c'est une amie. Et du coup, cette réplique que je vais écrire pour elle, et qu'elle-même joue, c'était vicieux, parce que je savais dans quel état ça allait la mettre. Évidemment, je l'ai écrite. Le matin, très tôt, j'étais la voir. Je lui ai dit, écoute, j'ai écrit ça. Si ça n'est pas possible, il n'y a aucun problème. Mais je n'ai pas pu ne pas l'écrire. Ça me hante depuis que tu me l'as raconté. Je lui ai fait lire. Elle m'a dit, non, c'est super. C'est super, c'est très bien. Mais ça aussi, ça a été une matière. C'est-à-dire que on n'écrit jamais de manière unilatérale à partir d'une seule douleur ou d'une seule souffrance. C'est une mosaïque de joie, de souffrance, de sentiments qui ont existé ou fantasmé. Et tout ça forme une matière. Tout ça forme une matière d'où peut naître une langue, une parole. Et donc le reste devient une question d'écoute, de très grande écoute, autant qu'on peut, de sensibilité et de traduction de cette sensibilité en réplique de théâtre ou en phrase. Mais c'est important de dire que ça vient aussi beaucoup des acteurs. Beaucoup.
Bonsoir. En vous sent très attentif à l'idée de restituer, à travers l'interprétation de vos acteurs, quelque chose d'une émotion la plus authentique et la plus près possible de ce que vous ressentez. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous êtes senti trahi, pardon pour peut-être la banalité de la question, trahi au sens de Lost in Translation, hein, quand vous avez vu Incendie de Denis Villeneuve?
Alors, c'est vraiment intéressant. En fait, quand Denis est venu me voir pour me dire « Je veux faire un film avec Incendie », je dis « Ok, mais tu vas te débrouiller sans moi. » Parce que moi, je ne peux pas t'aider. Si je dois t'aider, ça va être épouvantable pour toi parce que je ne laisserai rien, je ne te laisserai pas faire. Et puis, en parlant avec lui, je lui dis « Tu sais, c'est comme si Incendie était une femme que j'ai aimée passionnément, avec qui j'ai eu une très très grande histoire d'amour. Non, il se trouve que cette histoire est terminée. C'est maintenant une très grande amie. Et tu viens me demander la permission si tu peux la draguer parce que tu aimerais beaucoup sortir avec elle. » Je dis, on ne peut pas coucher à trois ensemble, donc il n'y a pas de problème. Si elle veut de toi, tu vas le savoir assez vite. C'est-à-dire concrètement, commence à essayer de faire le scénario. Hein, si, essaye de passer, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Je dis, et si jamais l'histoire débute ensemble, j'y fais, prends-en soin. Prends soin d'elle, parce que je l'aime vraiment. Et alors, ils ont eu une histoire d'amour incroyable, ils ont vécu ensemble, etc. Ils sont devenus de très grands amis. Puis un jour, ils m'ont invité à manger, c'est-à-dire j'ai été voir le film. Je me suis assis, j'ai été voir le film. Et au fond, il y a un endroit dans le film où... j'aurais envie de dire à Denis, oh non, là tu l'as trompé là. Ah, je suis désolé, là il y a un moment où tu l'as trompé. C'est un moment très précis dans le film. Pour ceux qui l'ont vu, je le raconte pour ceux qui l'ont vu et ceux pour qui ne l'ont pas vu. Lorsque vous le verrez, vous penserez à moi. Il y a un moment où, vers la fin du film, on voit une séquence où la mère est en train de mourir et le notaire est penché. Ceux qui ne l'ont pas vu, je suis pas du tout en train de révéler quoi que ce soit de terrible. Là, tout ça est connu dès le début. Donc on voit la mère est en train de mourir et on voit le notaire qui est penché au-dessus d'elle. Et on voit la mère qui murmure des choses. Et le plan suivant, on voit le notaire assis en train d'écrire. Ce qui supposait, par ce plan, c'est que c'est le notaire qui a écrit les lettres. Or ça, c'est... Impossible. C'est la mère qui l'a écrit parce que c'est précisément pas seulement une communication d'information, c'est une langue. Et ça ne peut pas être la langue du notaire. Le notaire n'a rien à voir dans cette langue-là. C'est la langue de la mère. C'est la langue de la mère. Une langue qu'elle a trempée dans tout son trajet, dans toute son histoire. Personne n'aurait pu écrire ces lettres à sa place. Là, pour le reste, absolument pas. Mais pour cet instant-là, il y a pour moi un désaccord majeur, je dirais, avec Denis, où je dis là, non, franchement, là, on ne fait pas ça à Incendie. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la langue? Eh bien, il y a l'information qui est contenue dans les mots, dans l'écriture des mots, par exemple. Vous voulez dire, il est rentré chez lui après le travail et il a trouvé sa femme morte. Je prends l'exemple du roman. C'est ce que vous voulez dire. Ça, c'est à la limite l'écriture. C'est-à-dire, vous écrivez ça, vous écrivez ces mots-là. Le sens passe. Quelqu'un serait capable de lire ça et de le comprendre. Maintenant, il y a maintenant une rythmique dans une phrase. Il y a une rythmique par les virgules, par la manière avec laquelle vous rentrez dans la phrase. Il y a la relation des mots entre eux, leur chant, la longueur de la phrase. Et tout cela, ce sont des choix que, comme auteur, vous faites. Et ces choix ne sont pas liés à l'écriture, ils sont liés à une langue qui est la langue écrite du poète ou de l'auteur ou du romancier qu'on entend très fort, par exemple, quand on lit Céline ou quand on lit
Julien Gracq, quand on lit tous ces Beckett, on entend tout de suite. Il y a l'information, il y a ce qui est raconté, mais il y a la langue aussi qui porte ce qui est raconté. Pour le dire de manière très très simple, c'est la manière d'écrire. Il y a l'écriture et puis il y a la manière d'écrire. Et la langue a... C'est intéressant, c'est une vaste question qui fait en sorte qu'il y a eu des... Par exemple, dans les cours de manuels scolaires, quand les cours de manuels scolaires ont commencé au 19e siècle à exister, les exemples pour dire ce qu'était un complément d'objet direct ou n'importe quoi, un attribut et tout, ces exemples étaient pris de la littérature. On allait chercher ça chez Victor Hugo, on allait chercher ça chez des grands auteurs. Mais il y a eu toute une, petit à petit, avec le XXe siècle, avec les réformes de l'éducation, il y a eu toute une pensée qui a dit, il ne faut pas mettre pour les élèves de la langue, il faut mettre que de l'écriture. Et ce qui va faire en sorte que dans les bleds ou les bécherelles, vous avez ça, les bécherelles ici? Oui. Des années 80, 70, 80, vous ne trouvez plus d'exemples qui sont des exemples littéraires, vous avez des exemples techniques. Par exemple, je sais pas, vous voulez apprendre l'anglais, vous avez quoi? Vous avez John is in the street. Is John in the street? John is not in the street. Bon, bah, ils prennent des exemples pour dire simplement la phrase pour pas induire une langue en plus. Et là, c'est un énorme débat entre des gens qui sont pour que les exemples soient portés par une langue et des gens qui sont contre. Ils disent la meilleure façon d'expliquer ce qu'est une épithète à un enfant, c'est pas en lui mettant du Victor Hugo, c'est en lui mettant une phrase dans laquelle il y a une épithète très simple. Et d'autres qui disent oui, mais il faut profiter de ça pour déjà amener la notion de langue chez l'élève. Et ça, c'est quand on est auteur, on est immédiatement confronté à cette question-là. Il y a ce que je veux raconter, mais il y a aussi est-ce que j'ai une langue? Est-ce que j'ai une langue? Comment je fais pour la trouver? Comment je fais pour la travailler?
Je crois que nous allons devoir nous arrêter là parce que nous devons rendre la salle. Merci infiniment. Ouais, je dis moi.
Merci à vous. Merci.